Monsieur Joliet était spécialiste de guitare classique. Il n'avait aucune intention de changer de répertoire, absence d'intention qu'il s'était soigneusement gardé de dévoiler. Maud lui avait régulièrement demandé « Et les chansons, quand nous y mettrons-nous » « Plus tard, répondait-il immanquablement, cela viendra facilement ensuite lorsque tu auras les bases en musique classique. » Mais la variété ne vint jamais, même si Maud atteignit, à force d'application et de travail, un excellent niveau d'interprétation des études de Fernando Sor et autres compositeurs émérites de guitare classique. À plus de 30 ans, elle se mariait et emménageait dans l'appartement parisien de Thibault. Elle savait jouer de la guitare. Elle ne pratiquait plus depuis longtemps et ne s'était pas encombrée de ce bel instrument de bois verni dont les cordes étaient douces au toucher. Elle savait jouer, mais elle avait abandonné l'objet. Elle n'avait plus l'intention d'ouvrir une partition. À 33 ans, elle savait que les loisirs qu'elle aurait de reste, après le travail et la vie conjugale, seraient consacrés à l'écriture plutôt qu'à la musique. Delphine, quant à elle, ne savait pas jouer, mais elle restait attachée à l'objet. Son avenir en ce domaine était ouvert. Maud la trouvait souple, jeune et pleine d'allant. Elle nourrissait en elle des désirs divers, variés, encore peu définis et empreints d'optimisme. Elle souriait à la vie. Luc et Delphine habitaient en novembre 2014, pour partie boulevard de Tessier et pour partie cour de Valbois. Le groupe des cinq prit alors l'habitude de se retrouver quelques 2 fois par semaine dans un petit restaurant voisin. Ils dînaient ensemble et bien sûr ils échangeaient, ce qui constituait aux yeux de Maud la grande affaire de l'existence. Ils s'étaient arrêtés après l'un de ces agréables dîners devant l'immeuble du boulevard de Tessier. Thibault, Maud et Romain s'apprêtaient à gagner le hall d'entrée tandis que Luc et Delphine rejoindraient le cours de Valbois. Ils se souhaitaient une bonne nuit. Maud n'était vraiment pas loin de sentir tout au fond d'elle-même la plus heureuse des femmes. Elle éprouvait d'une certaine manière la réjouissante impression de vivre à la façon des aristocrates de la série Downton Abbey, une série désormais universellement connue à la saveur très nettement sucrée, ou encore, pour compléter la métaphore, à la tonalité approchant celle d'un éclatant rose fuchsia. La jolie imagerie de la vie familiale dans un château anglais avant la Grande Guerre suscite chez le spectateur à l'aube du XXIe siècle un plaisant sentiment de nostalgie et Maud de se délecter en toute simplicité des heures et malheurs des châtelains du comté de Grantham. Mais à dire vrai, une fois dépassés les aspects belles images principalement colorées de rose et de séduisantes friandises essentiellement sucrées, Maud se devait d'avouer que ce genre de vie familiale entrait en résonance chez elle avec une forme de désir ou de rêverie discrètement enfouie. Maud n'était certes pas encore atteinte de débilité mentale au plus extrême degré de gravité, elle avait encore conscience qu'elle n'appartenait pas à la classe des aristocrates anglais du début du siècle dernier. Sa lucidité était sur ce point fort heureusement inentamée, mais rien ne lui interdisait de laisser vagabonder son imagination. On vit en 2014, on dispose d'un écran de télévision, on regarde une fiction pour grand public, peu complexe et relativement manichéenne, et l'ensemble de ces considérations n'empêche pas de rêver. Ce type de divertissement n'est-il pas au fond précisément conçu en ce sens? On peut donc, dès lors, écarter toute vergogne par nature pusillanime et choisir de révéler, aussi honnêtement que faire se peut, ces discrètes rêveries, éventuellement socialement incorrectes de Maud, rêveries selon lesquelles la vie à la manière de Downton Abbey ne lui déplairait pas. Une vie où chacun vaquerait à ses occupations dans la journée et se retrouverait le soir pour échanger dans des conditions extrêmement favorables de confort et d'élégance. En 1910, dans le comté de Grantham, on parcourt à cheval, prairies et chemins creux de la campagne alentour. On tente de soulager quelques malades de l'hôpital voisin. On rencontre ces métayers. On s'adonne à la lecture, à la musique, ou bien l'on choisit de passer quelques jours dans les beaux quartiers de Londres. En 2014, à Paris, on va à l'université ou dans les locaux de ZA Infrastructure. On écrit tout en rencontrant ses amis, l'on s'affaire, et dans les deux cas, dans la campagne anglaise post-victorienne, tout comme dans l'Est parisien à l'époque actuelle, on se retrouve ensuite à table, non pas, précisons-le, essentiellement pour se nourrir, mais bien davantage pour échanger. Se nourrir apparaît au fond aussi élémentaire que l'activité en devient accessoire. Elle constitue certes la raison première de la réunion familiale, mais on l'aura remarqué, l'intérêt des scènes de la série en question se révèle à l'écoute des propos échangés autour de la table et n'étant rien suscité par les savoureux aliments présentés dans des services de la plus fine porcelaine. Est-il par ailleurs besoin de souligner que l'aspect élémentaire des repas se trouvait être, il y a 100 ans, dans les châteaux de l'Oxfordshire, quasiment transparent, car assuré par d'impressionnantes équipes de majordomes, intendants, cuisiniers et aides-cuisiniers. Les discrètes rêveries de Maud consistaient de la sorte à s'imaginer libérée des tâches matérielles tout en privilégiant les échanges entre les membres de la famille. Et Maud vivait, à vrai dire, exactement selon ses principes, à chaque fois qu'elle retrouvait mari et enfant dans le petit café-restaurant à 2 pas de l'appartement. Elle en avait une très nette conscience en ce soir de novembre, alors que la famille se séparait devant le jardinet du boulevard de Tessier, alors que la nuit était douce, et qu'en dépit des lumières toujours présentes dans les rues de Paris, des lueurs d'étoiles brillaient par-delà les toits et les branches dénudées des arbres de la ville. Maud s'engagea dans l'allée et libéra le pétulant cocker de la famille qui s'offrit une belle accélération jusqu'à la porte d'entrée. Le jeune couple s'éloignait, leur appartement les attendait, blanc et vide. Des étagères, aménagées dans des cloisons à claire-voie, présentaient des surfaces nues, vierges de tout livre ou objet décoratif. Ils allaient pénétrer dans un espace dégagé alors que l'encombrement et la surabondance menaçaient en permanence chez Thibaut et Maud. Thibaut se levait le matin, ses chaussettes serrées dans une boîte en carton sur une série d'étagères chutaient sur le parquet. les étagères de plastique bon marché achetées, montées et posées par Maud à même le sol couraient sur toute la longueur du couloir. Les livres débordaient derrière les lits et dans des boîtes, dans les armoires, sous les canapés, dans des poufs de rangement, derrière la box et sous l'aquarium. Maud avait, au fil du temps, orné les murs de la grande salle d'images de bateaux et de paysages maritimes. Elle y avait ajouté les encres d'un artiste qu'elle avait connu quand elle travaillait ses textes dans un atelier de peintre, et également des photos du port de la Bastille. Elles avaient été prises des années plus tôt par un photographe amateur qui organisait des ateliers d'écriture dans son bateau amarré dans le bassin de l'Arsenal. Maud y écrivait chaque semaine. Le voilier dématé pour l'occasion était cependant un vrai bateau marin avec compas, sextant, table à cartes et pilote automatique. La brise formait des vaguelettes sur le miroir de l'eau qui brillait sous le soleil du matin. Des familles de canards traversaient fiers et dignes le bassin d'une rive à l'autre. Maud avait également agrandi et placé sous verre une carte postale envoyée par sa mère pendant une triste période qui avait duré 10 ans. La rupture était alors consommée entre la mère et la fille. Elle ne se voyait pas, ne se téléphonait ni ne s'écrivait. La seule exception avait été cette unique carte, une aquarelle qui évoquait l'île de Signac où Maud avait passé ses vacances d'enfant. Une ligne de dunes ondulait sous un ciel clair. Une bicyclette et des avenots appuyés contre un muret de pierre attendaient le pêcheur. L'image, visible depuis la table de la salle à manger, rappelait régulièrement à Maud sa surprise émue à la lecture des quelques mots de sa mère. La mère et la fille étaient à l'époque perdues, l'une pour l'autre. Et aussi, à côté du paysage vendéen typique de l'île de Signac, la danse de la vie humaine de Nicolas Poussin. Une autre carte postale, de même agrandie et placée sous verre, avait été envoyée depuis Londres par un ami de Maud. Elle venait de lire le cycle romanesque du même nom d'Anthony Powell, un illustre romancier anglais. La subtilité et la profondeur tenues sur les 12 volumes du récit l'avaient fascinée, et Grégoire, son ami de toujours, lui avait adressé cette carte. Il sortait du musée où l'œuvre était conservée. Il avait en tête l'enthousiasme de Maud. Amusé, il lui avait écrit son bon souvenir depuis la Wallace Collection. Sur le mur de la salle à manger, les allégories des 4 saisons formaient une joyeuse ronde et évoquaient, dans l'esprit de Maud, ses longues heures de compagnonnage avec l'auteur britannique quand elle découvrait sa prose précise, posée et nuancée. Elle pensait aussi à Grégoire et à leur longue complicité depuis leur classe préparatoire puis leurs études à HEC. Les images sur les murs étaient des traces et des couches de vie peu à peu déposées. Elle témoignait de souvenirs et d'émotions passées. Quant aux photographies de famille, Les seules mises en évidence dans l'appartement montraient le père de Maud. Il n'était plus de ce monde depuis bientôt 20 ans. Un cancer l'avait emporté, d'autant plus foudroyant qu'il avait d'abord été discret. Maud avait alors ressenti l'impérieux besoin d'écrire sur lui et une fois parvenue au terme de son livre, une autre nécessité s'était fait jour. Elle avait fabriqué un pêle-mêle d'images où il figurait. La réticence de Maud pour les photos en exposition s'était pour l'heure évanouie. Bien au contraire, elle avait voulu rendre visible aux yeux de tous et le plus possible, c'est-à-dire peu, puisqu'il n'était plus là, l'allure de son père, son sourire, ses gestes et ses regards. Les cadres sur les murs, les chaussettes dans les boîtes, les livres dans d'improbables endroits étaient des sédiments, des empreintes, des teintes et des couleurs d'hier et d'aujourd'hui. Le plein dans cet appartement de ce côté-ci du boulevard, le vide de l'autre côté du boulevard. Luc et Delphine dormaient quelque 3 fois par semaine boulevard de Tessier, il leur arrivait de rentrer tard. Ils passaient d'abord cour de Valbois, entourés par de sobres murs blancs. Ils prenaient des mesures et imaginaient des aménagements futurs. Ils arrivaient ensuite boulevard de Tessier, ils étaient accueillis avec force démonstration, le chien aboyait, on blaguait, on posait des questions, on riait. Romain sortait de sa chambre, la vie circulait chez eux, boulevard de Tessier. Le cours de Valbois, quant à lui, céderait la place plus tard et en son temps au plein, au bruit et au mouvement. Maud les regardait. Ils entamaient leur tout nouveau chemin. Tout est à faire, se disait-elle. Elle avait confiance, elle les trouvait touchants à l'orée de leur existence. Elle les aimait, ces deux jeunes gens. L'appartement du cours de Valbois datait des années 20, de fines moulures ornaient le plafond et le dessus des portes, la vue était magnifique, sur les pavillons Ledoux qui signalaient classiquement l'une des portes historiques de Paris, les peintures impeccables, claires et neutres, laissait toute liberté pour imaginer la future décoration des pièces. « La cuisine est trop petite », fut le commentaire de Luc, l'un des tout premiers jours où ils faisaient ensemble le tour du propriétaire. Il ne dit pas un mot sur les moulures. Et puis les murs blancs, ce n'est pas terrible. C'est froid, c'est plutôt triste. Fut une autre de ses appréciations. Mais il faut décorer, avait répondu Romain. Mettre des bateaux sur les murs, par exemple, c'est bien les bateaux, non? Ah non, pas du tout, pas des bateaux, avait rétorqué Luc, tout en jetant un regard latéral vers Maud, qui pour sa part couvrait les murs de sa maison de bateaux en tout genre, photographiés, lithographiés ou peints. Elle avait également dans le passé sévi dans les chambres des garçons. Elle leur avait offert, par un beau matin de Noël, 2 grandes lithographies voilières qui trônaient depuis ce jour devant leur lit. Pas de remerciements donc, ni même d'approbation concernant le logement gracieusement mis à disposition. De plus, le goût de maman n'est pas du tout le mien, fut le sens des propos de Luc. Ce n'est pas bien grave. C'était dit Maud. Il changera quand il sera plus fort. Le temps est encore trop proche où il dépendait de nous. Il était formé, contraint, contrôlé par nous à l'école, après le bac. Il va vivre dans un lieu choisi par son père. Et il affirme sa différence. Son indépendance, en parole. Sa mauvaise humeur. Parce qu'il est vulnérable, il veut griffer en fait, à sa façon, il griffe son père, il griffe sa mère, mais pour un temps seulement. Maud confirmait en pensée son absolue certitude, elle l'aimait, ce grand-fils peu assuré au fond. il grandirait encore. Chapitre 3 Lien. Au retour des Antilles, Maud appela de nouveau sa mère presque chaque jour. Comment une femme de 80 ans et vivant seule pourrait en effet ne pas être soutenue moralement? La rupture entre la mère et la fille appartenait depuis plusieurs années maintenant au passé. Le lundi 7 novembre au matin, Maud décrochait son téléphone. Son dernier appel datait du vendredi précédent. Le week-end, ses hommes étaient à la maison et une trêve des conversations mère-fille intervenait. Maud entendit les premiers mots de Claire. Sa voix était mécanique et froide, heurtée, factuelle, lacunaire, sans âme. Maud comprit immédiatement. Claire avait été triste ces deux derniers jours. Maud fut consternée. Mais comment donc avait-elle fait pour ne pas anticiper sa peine du week-end? Claire avait certes l'habitude des week-ends où elle ne prévoyait ni rencontre ni activité, à l'exception, cela va sans dire, de la messe dominicale. Mais Maud aurait pu cette fois-ci être plus vigilante. Depuis quelque temps, Thérèse, sa sœur aînée, se montrait froide et distante envers leur mère. Son moral en était affecté. Maud avait immédiatement perçu une semaine plus tôt, le lundi 2 novembre, dès son premier appel après son intermède tropical, cette toute nouvelle fragilité maternelle. Elle n'aurait donc jamais dû l'abandonner pendant deux jours pleins, sans l'appeler, sans lui parler, sans l'écouter, ni lui lire des textes à haute voix. Lire des romans par épisode était leur activité commune, qui leur permettait d'entamer d'étonnants voyages. Elles s'éloignaient de leur propre vie, elles échangeaient sur l'extrait du moment, elles s'interrogeaient, elles comparaient leurs perceptions, elles prenaient conscience de leur vision proche ou de leur divergence. Une distance bénéfique se glissait entre elles et leur existence, quotidienne, matérielle, inéluctable et obligatoire. Fluidité et légèreté s'invitaient dans leurs conversations, accompagnaient leur matinée ensuite. Ce dernier week-end, le samedi 5 et dimanche 6 novembre, était passé et les démons avaient gagné la partie. Les questions douloureuses du genre « À quoi sert donc ma vie ?» mêlées aux idées noires, se résumant à « Je ferais mieux de quitter ce monde », c'était du samedi matin au dimanche soir, relayé dans l'esprit de Claire en une sombre danse dure et mortifère. Maud fut catastrophée. Elle ne supportait pas que sa mère soit habitée pendant de longues journées par ces terribles pensées. Maud avait son idée sur l'origine des tensions entre Thérèse et Claire. Celle-ci avait passé une semaine dans sa maison de Signac. Elle y avait accompagné Thérèse, qui avait souhaité profiter de quelques jours au bord de la mer avec ses petits-enfants. Les vacances de la Toussaint commençaient. Un séjour maritime était tout indiqué pour occuper les jeunes écoliers. Les deux femmes étaient parties et Maud avait compris dès le lundi 31 octobre donc, à la simple écoute de la voix de Claire, qu'elles s'étaient toutes deux, pendant ce séjour, transformées en êtres de devoir au service des petits-enfants pour l'une et arrière-petits-enfants pour l'autre. Les courses, la préparation des repas, le ménage, la surveillance de Victor et Amélie furent autant de tâches parfaitement réalisées, mais dans la contrainte et la gêne. Aucune des deux n'évoqua bien évidemment le malaise, puisqu'une mère et sa fille sont à minima censées être capables de vivre ensemble harmonieusement sous le même toit pendant une semaine. La gêne avait duré après leur retour. Thérèse n'était pas précisément réputée pour l'extrême souplesse de son caractère et Claire craignait, depuis toujours, ses réactions d'un genre le plus souvent relativement autoritaire. Il n'était dans ces conditions pas très étonnant que, contrariée par son séjour vendéen, Thérèse persévéra dans une attitude sévère envers sa mère. Maud réitéra après ce triste lundi ses appels quotidiens, la douceur, la détente, la confiance, le récit du quotidien, la transparence, reprirent peu à peu leurs droits. Claire redevint loquace. Elle confia de nouveau à sa fille les détails de sa vie, de ses courses, de son ménage, de ses rencontres, de son activité de catéchuména. Elle commenta les films du soir à la télévision et ses lectures du moment. Claire avait retrouvé son allant. L'angoisse du dernier week-end n'était plus qu'un souvenir, mais Maud avait compris la leçon. Elle n'oublierait pas à l'avenir de s'informer de son programme de fin de semaine. Et en cas de calme plat, prévisible, elle saurait, d'une façon ou d'une autre, intervenir. Elle ne l'abandonnerait pas une deuxième fois à ses idées noires, elle y veillerait. Maud avait discuté avec sa plus jeune sœur avant le départ de Claire pour Signac. « Maman accompagne Thérèse pour l'aider », avait-elle expliqué à Cathy. Elle dit que ce ne serait pas facile dans sa maison de s'occuper seule de deux enfants. Elle se trompe peut-être, mais au fond, même si elle n'aide pas vraiment, elle le croit. C'est son intention, c'est plutôt gentil. Pas du tout, lui avait répondu Cathy, c'est pour ennuyer Thérèse. Elle veut être là, c'est sa maison et elle s'impose. Cathy vivait une période où elle pardonnait peu de choses à sa mère. Novembre 2014, Rosalie, une amie proche de Maud, avait subi en 2012 de lourds traitements contre un premier cancer. Elle vécut ensuite une rémission d'un an, puis un autre cancer se déclencha et elle dut une fois de plus en passer par l'ensemble des soins prodigués en ce cas. En novembre, elle se rétablissait peu à peu. Maud l'appelait aussi souvent qu'elle le pouvait. Ensemble, elle luttait contre la bête hostile qui peut-être se dissimulait tapis en embuscade afin de déclencher encore l'une de ses attaques. Toutes deux essayaient de donner du sens aux épreuves de Rosalie. Elle ne disposait que d'un moyen d'action. Elle parlait de la joie. Elle supposait que le meilleur rempart de Rosalie pour prévenir d'éventuelles futures agressions était de cultiver en elle sourire, détente et légèreté. Elle se racontait de belles histoires, en misant de la sorte sur de belles relations de cause à effet. Si la joie demeurait présente et agissante, la maladie s'éloignerait. Mais avait-elle le choix? Il leur fallait intervenir, mener le combat. Maud pensait à la grande illusion de Renoir, où les prisonniers sans espoir de libération creusaient un tunnel. Le résultat était incertain, mais le but existait à l'origine du mouvement et qui donnait du sens à une existence limitée par des murs infranchissables. Maud encourageait son amie. « Pense à la joie !» lui répétait-elle, mais la partie était parfois difficile. Rosalie était contrariée quand sa fille aînée, en école d'ingénieur, à 500 kilomètres de leur domicile, annonçait sa venue à une certaine heure pour un déjeuner familial et retardait son arrivée indéfiniment jusqu'à plus d'heures. Malheureuse et triste, en désaccord avec son mari, qui pour sa part se montrait plus conciliant, Rosalie était soudain victime d'une forte poussée de fièvre et prenait le lit. Elle retournait à l'hôpital dans la ville voisine, et non pas à Villejuif, dont tous les lits étaient occupés. Rosalie serait pour un temps de nouveau cernée par quatre murs blancs et aseptisés. Maud attendait qu'elle soit installée dans sa chambre. Alors elle l'appellerait et elle l'aiderait, comme elle le pourrait. Novembre 2014. Cathy prenait des antidépresseurs depuis peu. Elle élevait seule ses deux fils jumeaux, ils avaient 18 ans et aucun des deux n'était assuré d'avoir son bac. Elle était minée par l'angoisse. Lorsqu'elle apprit cette nouvelle, Maud décida de la rencontrer régulièrement. Cathy lui parlerait, Maud tenterait de l'aider. Gestionnaire dans un collège, Cathy n'avait que peu de temps. Et les deux sœurs convinrent du dimanche après-midi, seul moment, relativement libre pour Cathy. L'une habitait à l'est et l'autre à l'ouest de Paris. Maud lui proposerait des rencontres régulières à mi-chemin dans un café de la place de l'Opéra. Novembre 2014. Maud avait connu Nino quelques semaines avant l'été. Il découvrait alors ses ateliers d'écriture. Maud les proposait gratuitement, car écrire ses romans les uns après les autres lui était absolument nécessaire. Elle n'était pas publiée à compte d'éditeur et se serait sentie très seule sans ses rencontres hebdomadaires. Nino était devenu un ami. Ingénieur à la retraite, italien vivant en France, divorcé depuis des années, il écrivait des haïkus tendres, nuancés et drôles. Après son retour de Martinique, Maud reprit ses rendez-vous quotidiens avec lui. Elle le rencontrait au premier étage du Père Tranquille dans le quartier des Halles. Ils étaient deux artisans penchés sur leur ouvrage. Nino écrivait un nouveau recueil de haïkus et Maud travaillait à son roman du moment. Nino n'était pas heureux. Ses deux filles avaient des enfants et il se demandait si elles étaient de bonnes mères. Il passait des heures sur Internet et imaginait que ses petits-enfants subissaient tous les troubles psychologiques, voire psychiatriques possibles. Sa plus jeune fille surtout l'inquiétait. Il la trouvait autoritaire, elle désirait la perfection pour ses deux fils. Il était sûr qu'ils en souffraient. Maud l'écoutait. Les relations entre le père et sa fille lui semblaient fusionnelle. Tasia adorait visiblement son père, elle intervenait dans sa vie pour l'aider, disait-elle, mais l'injuriait copieusement. Si par malheur il s'opposait à elle, elle le couvrait de cadeaux. Écharpe, cache-col, gilet, bonnet, dont il n'avait que faire, de provisions alimentaires super vitaminées pour personnes anémiées, ce qu'il n'était pas le moins du monde, de fruits et légumes en telle quantité qu'ils ne pouvaient tous les consommer. Elle transformait son balcon en magnifique espace vert planté d'arbustes et de rosiers grimpants, tout en prodiguant des instructions précises en matière d'arrosage, dont elle ne manquait pas de contrôler l'application à chacune de ses visites. Elle était à la fois généreuse et possessive, affectueuse et colérique. Elle agaçait son père. Nino n'en était cependant pas profondément affecté pour ce qu'il concernait, mais il était anxieux pour ses petits-enfants, qui risquaient selon lui de se transformer sous l'influence d'une telle mère en de tristes singes savants, éteints et dépressifs. Maud essayait de l'apaiser. Elle était sincère lorsqu'elle lui disait qu'il agissait au mieux. Il prodiguait amour et attention à sa fille. Il emmenait ses petits-enfants au bois de Vincennes. Il faisait de la barque avec eux. Ils allaient au cinéma voir des films de Charlie Chaplin et aussi au théâtre pour enfants, dont il choisissait soigneusement les spectacles. De temps en temps, l'un d'eux dormait chez lui, Il transformait son salon en camp retranché avec tente pour indien entre la table basse et le canapé. Il leur téléphonait et leur écrivait des cartes postales. Il aurait voulu passer plus de temps avec eux en l'absence des parents. Maud était d'accord. Son influence leur était bénéfique. Il était calme, souriant, serein, philosophe à sa façon. Elle le rassurait. Elle lui répétait qu'il avait été un père proche et attentif. Il n'avait rien à se reprocher. « Fais confiance à tes filles, lui disait-elle, ainsi qu'à tes gendres et à tes petits-enfants. Ils ont de la ressource, plus que tu ne crois. » Elle lui tenait ce discours lorsqu'elle le rencontrait. Elle insistait pour qu'il soit moins sévère avec lui-même. Novembre 2014. Luc entrerait bientôt chez l'Arctique Frère. Il habiterait alors Cours de Valbois, non plus partiellement, mais à temps complet. Maud se demandait s'il réussirait encore de temps en temps à se parler en tête à tête. Cette dernière année, les occasions s'étaient d'ores et déjà faites rares. Luc travaillait en alternance, il se réveillait le matin, partait tôt, revenait le soir, la plupart du temps avec Delphine. L'appeler dans la journée était hors de question, il avait d'autres priorités que de parler avec sa mère au téléphone. Maud était ennuyée, parce qu'elle pourrait éprouver, un jour ou l'autre, le besoin de lui parler de sujets qui se révéleraient peut-être, sait-on jamais, d'une certaine importance. Récemment, par exemple, à chaque fois que tous deux avaient eu par hasard une conversation, celle-ci avait influencé leur vie de façon nettement favorable, pensait Maud. Ces occasions, par deux fois, s'étaient manifestées parce que Maud faisait sitting avec son ordinateur sur le canapé de l'entrée, la place stratégique et centrale de l'appartement. Dans les deux cas, Luc avait tout simplement ralenti le pas alors qu'il passait négligemment par là. Il avait, lors de leur premier échange, fait remarquer l'inactivité notoire de la famille, tant le soir, on ne dîne jamais ensemble, qu'en fin de semaine, on ne fait jamais rien, on reste à la maison. Les dîners en famille, ainsi que les week-ends à la campagne, étaient devenus, dès lors, tout à fait habituels. Maud s'était demandé, lors de son deuxième arrêt devant le canapé, si Delphine resterait sa petite amie une fois leurs études terminées. Quelques minutes plus tard, après la réponse de Maud, Luc acceptait enfin l'appartement, Cour de Valbois, vainement proposé par son père depuis des semaines. Maud s'interrogeait. Comment pourrait-elle, une fois qu'il aurait déménagé, le mettre au courant d'une question qui, sur le moment et en son âme en conscience, la préoccuperait? Elle excluait le téléphone, tout autant que les lettres orales sur répondeur. Luc refuserait les longs messages accumulés que sa mère affectionnait et qu'elle adressait aussi bien à Thibault qu'à certains de ses amis les plus proches. Il l'avait trop écouté sur cassette du temps où elle travaillait. Elle lui préparait à l'époque des cassettes de révision de leçons qu'il écoutait chaque jour à l'heure du déjeuner. La nounou qui restait à la maison toute la journée y veillait le soir. Avant le retour de Maud, il avait le plus souvent droit à une nouvelle séance. Il affirmait depuis ce temps haut et fort qu'il ne supportait plus la voix de sa mère en décalé. Après avoir longuement réfléchi à cette épineuse question, Maud trouva enfin la solution. Elle lui écrirait. Elle pourrait ainsi prendre tout son temps, pourrait sans problème développer les différents tenants et aboutissants, ainsi que les arguments et contre-argument des sujets qui lui tiendraient à cœur. Si l'on veut convaincre, l'on se doit d'approfondir. Et ce que l'on écrit en une heure ou même davantage est aisément parcouru en quelques minutes. À coup sûr, Luc accepterait ce type de lien en certaines circonstances. C'était décidé. Maud lui écrirait. À l'heure des mails, la voie s'ouvrait, toute tracée et même royale devant elle. Fin du roman. Reprise du sommaire. Première partie à Paris. Chapitre 1, premier emploi. Chapitre 2, vers la Martinique. Deuxième partie aux Antilles. En avion. Arrivée. Dépaysement. Silence. Regard. Écouteurs. Un nouvel habit. Un bel appartement. Regard. Dernière journée. Troisième partie, à Paris, la santé, jeu de l'ego, des liens.